À un moment donné, j'ai pris du galon, comme on pourrait dire, et j'ai été nommé chef du premier sous-secteur, c'est-à-dire la moitié nord du département du Rhône.
Marcel Schadbeck.
Toute la rive droite de la Saône jusqu'à la route, disons, en gros, Lyon-Tarare, Lyon-Roanne. Et tout ce secteur était sous mon contrôle en ce qui concernait les francs-tireurs et partisans français. Nous avions des groupes à Tarare, nous avions des groupes dans toute la vallée d'Azergues, avec des milices patriotiques presque dans chaque village, et des camps de maquisards disséminés un peu partout dans les bois. Il y avait une sorte de maillage qui faisait que chaque fois que les Allemands essayaient de passer quelque part, on concentrait toutes nos troupes à cet endroit-là, et c'est ce qui fait qu'ils n'ont jamais pu pénétrer dans la vallée d'Azergues à partir de la fin juin. Oui, je dois dire que je ne croyais pas personnellement à l'efficacité de ces milices patriotiques, je l'écris dans le livre d'ailleurs, mais par discipline, j'exécutais les ordres et nous avons armé dans les villages tous les patriotes qui se manifestaient. Eh bien, nous en a pris parce que nous nous sommes aperçus un jour, nous avons, comme je n'y croyais pas, j'ai dit, ben voilà, on a un petit accrochage qui n'est pas méchant, on sait à peu près à quoi s'en tenir, bon, on va en profiter pour lancer une alerte générale. C'était un système qui était basé au cas où il y aurait une grosse offensive ennemie. Alors, on a lancé l'alerte générale et à ma grande stupéfaction, à la stupéfaction de tous mes camarades d'ailleurs, il y a eu une réponse au-delà de toutes nos espérances, de tous les hommes que nous avions armés, mais même des hommes que nous ne connaissions pas, qui avaient des fusils cachés et qui sont arrivés bardés de ceintures pleines de cartouchières de tirs au sanglier ou de chevrotines et qui s'affirmaient prêts à se battre.
Postérieurement au combat de Montcharles, et jusqu'en juin, nous n'avons pas eu à subir des combats opposant de gros effectifs. Mais nous avons eu de nombreux accrochages avec des unités vichistes qui se sont avérées meurtrières pour nos adversaires, GMR et gendarmes, car ces derniers n'ont pas toujours eu l'attitude des gendarmes de la mûre, mais ont servi Vichy avec zèle. Soulignons que le 22 juin au Pont-Arène, nous nous heurtons à quelques dizaines d'Allemands qui détruisent nos véhicules, une camionnette Citroën, mais doivent abandonner les lieux si vite que nous n'avons pu les poursuivre. Le 24 juin, toujours au Pont-Arrêt, nous nous heurtons à des Allemands transportés par deux camions qui, pour se protéger, doivent se réfugier dans la gare de Ligny. Arrive malheureusement un train de voyageurs qu'ils prennent en otage, ce qui nous interdit de tirer. Nous continuons bien sûr d'encercler les lieux et à la nuit, ces Allemands s'estiment en sécurité, libèrent le train de voyageurs et se préparent à quitter les lieux. Nous mitraillons leurs véhicules. Le propriétaire du restaurant qui jouxtait la gare et qui avait été envahi par les Allemands nous a déclaré avoir vu 23 corps allongés sur les tables de son établissement.
Alors que ici, aux portes de Lyon, à 30 km de Lyon,
Marcel Schadbeck.
la vallée d'Azergues, avec une route nord-sud, avec une voie ferrée Givors-Paray-le-Monial nord-sud, qui transportait beaucoup, beaucoup de matériel et de troupes allemandes, a été neutralisée dès la fin juin 1944. Pendant 2 mois avant Lyon, la vallée d'Azergues était libre. Et je peux ajouter là-dessus que beaucoup de nos amis juifs ont profité de cette liberté pour venir s'installer dans les hôtels de la vallée d'Azergues, où là, ils étaient tranquilles et ne risquaient plus d'être déportés en Allemagne. Voilà ce qu'a été la résistance. Alors, en opposition, cette lutte des francs-tireurs et partisans, non seulement dans les maquis, parce qu'en ville aussi, Roger vous en parlera tout à l'heure, il y en avait des groupes armés aussi en ville et qui agissaient. Moi, personnellement, j'ai connu un camarade célèbre, Müller, le commandant Dardel, qui dirigeait les groupes de ville, et qui était venu nous voir au maquis le jour de sa mort. Il est reparti de Clavesol et à midi, 2h de l'après-midi, et à 6h du soir, il se faisait abattre au pont-mouton. Mais j'ai connu ces hommes prodigieux, magnifiques, et il n'y a pas eu que les maquis. C'est toute la France qui s'est battue, et c'est parce que le peuple français en entier s'est battu que veulent plus parler de cette guerre 39-45, parce que ça le ferait mal au ventre de voir que c'est une action populaire et ça n'est pas une action organisée par un État avec des militaires officiels. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas croire que c'est gratuit. Il ne faut pas croire que c'est gratuit. Vous savez, on a été perturbés pour le restant de nos jours. Hein? On en porte encore les traces maintenant. Et combien, je dois le préciser, tous mes camarades du maquis qui ont survécu à la libération, pratiquement ils sont tous morts. On se comptait le 19 mars, on reste 5. Ils sont morts de quoi? Ils n'ont pas été tués, ils n'ont pas été blessés, mais ils sont morts parce qu'ils ont eu un syndrome qui les a rongés, qui les a tués. C'est ça la maladie du résistant.
Il est sorti de tout ça que, en fait, la vallée d'Azergues a été impraticable pour les... Enfin, votre implantation était telle que la vallée d'Azergues a été impraticable pour les troupes allemandes le moment de la débâcle venue. C'est une belle réussite stratégique, ça.
Non, mais pas le moment de la débâcle venue, dès la fin juin. Ils ont attaqué à Ronchal, nous, à Beaujeu, on aura détruit un convoi, ils ont attaqué à Chambostalière, ils ont attaqué au Bois d'Oin par 3 ou 4 fois, et la dernière fois, on les a secoués, et ils en ont conclu que nous avions des forces. C'est vrai que chaque fois, on alignait 500 ou 600 hommes avec nos amis de l'Ouest de Saône-et-Loire, et 500 ou 600 hommes à chaque endroit, on pouvait préciser... préséger que nous étions beaucoup plus nombreux que nous n'étions en réalité. Mais je répète, la vallée d'Azergues a été libérée complètement à partir de la fin juin.
Oui, puisqu'il y a cet extraordinaire, j'allais dire, défilé du 14 juillet à Namur des troupes de FTP.
Partout, dans tous les villages.
Tous les villages.
De la vallée d'Azergues, du Soanan et certains villages du Beaujolais. Et en plus... Il faut dire que 3 jours après, des aviateurs anglais ont vu leur avion s'abattre dans les bois de Ternan. On leur a fait des funérailles à Létra. Et lors des funérailles, il y avait 3000 personnes, des civils alors, qui n'étaient pas des résistants, qui venaient rendre hommage à des alliés anglais qui étaient morts tragiquement sur leur territoire.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, les miliciens ne se pointaient plus
là-bas. Ah ben, ils ne pouvaient pas, nous avions de puissants barrages aussi. Nous mettions sur toutes les routes, il y avait de puissants barrages, nous avions nuit et jour des gros barrages pour neutraliser la vallée, mais elle était complètement neutralisée.
Le 2 juillet, les unités du bataillon 14 juillet accompagnent au cimetière Saint-Joseph en Beaujolais le corps du FTP Alagnier, tué à Belleville, sur Saône.
René Carrier.
À Beaujeu, leurs véhicules subissent le tir d'une mitrailleuse allemande installée sur un train en stationnement. La riposte se déclenche et l'ennemi, pris entre le feu croisé de 6 fusils mitrailleurs, mais le train en route et disparaît. Le 1er août, un fort contingent de miliciens attaque un petit maquis à Saint-Vincent-de-Reims, limite de la Saône-et-Loire. Le bataillon 14 juillet, combinant son action avec les corps francs de Saône-et-Loire, intervient, et bien que des renforts allemands aient rejoint les miliciens, ils seront mis en déroute. Le 9 août, nous bénéficions d'un parachutage au lieu dit Casse-Froide, au nord de la vallée. Je le précise car c'est bien là le seul parachutage dont nous avons pu bénéficier. Le 11 août, au pont des Sansons, nous, sur le territoire de la commune de Quincier, nous attaquons un convoi allemand équipé de blindés. 4 officiers et 19 soldats allemands sont tués.
Et d'autres actions après, avant, dont vous vous souvenez?
Ce que je me souviens, c'est que moi je suis venu à Villefranche avec le Doré et le chat.
Hubert Reverchon.
Avec le camion là.
Oui. Eh bien, vous connaissez Villefranche surtout. Vous avez vu, vers le cimetière de Villefranche, il y a un mur, il y a une plaque. Vous allez voir. Hein? c'est marqué Renoulia. C'est un copain qui était avec moi qui s'est fait tuer là.
Dans cette opération-là?
Oui, parce que là, on venait surtout pour ravitaillement, essence. Et lui, Renoulia, et lui, il avait un fusil mitrailleur. Et quand on était aux abords là, du cimetière, vers le Mazin, en remontant le boulevard, les Allemands remontaient le boulevard dans des cars. Oui, de Villefranche, il a monté le boulevard et tout. Et c'est là qu'il y a eu une pétarade, tout le bazar, quoi. Ouais, ouais.
Mais vous les avez attaqués ou
Oui, parce qu'il y en a qui étaient dans les cars, mais il y en a qui étaient... Oh, tu les...
Oui. Non, ça les a... Attends, mais c'est eux qui vous ont attaqué d'abord aussi.
Oui, c'est eux qui nous ont vus, puis nous, on a répliqué au fusil mitrailleur. Puis alors, on n'avait pas terriblement de cartouches et tout, comme toute chose. Alors, on avait dit à Renoulia, allez, arrête, et puis allez, il faut te replier et tout. Il n'a rien voulu savoir, il est resté. Il s'est fait dessouder. Et moi, à ce moment-là, j'avais un mousqueton comme arme. Et je me suis replié sur Villefranche. Et je suis arrivé boulevard Louis Blanc, où il a derrière, il montait. Et heureusement, là, il y a eu des gars de Villefranche. Il y en a un qui m'a dit, je fais partie du maquis. Et, allez, je lui ai foutu le machin sur le ventre. Donc j'ai dit, je ne connais pas. Hein. Et c'est de là qu'il m'a... Il m'a donc fait héberger par des personnes de Villefranche, camouflées et tout. Et le lendemain, ils sont venus me chercher pour me ramener au maquis d'Azergues. Et le lendemain, il pleuvait. On est repassé devant le mur, le machin. Et sur le trottoir, il y avait mon copain allongé.
Il est toujours là.
Allongé.
Vous étiez... Les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus, alors? Parce que vous n'étiez pas...
Ah ben, ils sont partis, ils ont rejoint le truc. Ouais.
Vous étiez venu faire quoi à Villefranche ce jour-là?
Essence. Eh oui. Il fallait se ravitailler.
Ben oui. C'était risqué, quand
même, Ben oui. Alors, vous voyez, tous des trucs, puis il y a pas mal de choses, qu'est-ce que... Et puis une fois, alors à la Valencière où on était, eh bien, les Allemands sont venus bombarder et mitrailler, parce qu'on était sur une colline, puis d'autre côté, il y avait une autre colline, une route et tout, ils se sont trompés. Ils ont bombardé, mitraillé, détruit des maisons et tout, il y a eu je ne sais pas combien de morts, les Allemands.
Les civils, là,
pas des gens du mec. Oui, non, nous de l'autre colline, on observait, on voyait tout.
Et la fin de... Enfin, à partir de mai-juin, là, ça a changé. Là, vous étiez un peu les maîtres du terrain, non ?
Oui, parce qu'il n'y avait aucun train qui circulait et tout. Puis, bien entendu, entre-temps, vous voyez, on a fait le défilé à...
Ouais, 14 juillet.
14 juillet, tout comme ça, mais... Hein.
Et vous avez repris votre activité de laitier ou vous avez fait autre chose ?
Non, j'étais... Je me suis marié, je suis revenu à Lyon, ma femme, je l'ai connue au maquis.
Oui, aussi.
Comme maquisard ou comme...
Non, le 14 juillet, on a occupé tous les villages, ouais. Hein, dans la vallée d'Azergues. Puis avec un collègue en moto, c'était le soir, j'ai dit tiens, on va monter à Grand-Rue. On monte à Grand-Rue, il y avait... Un bal, c'est une fille de ma fille Blin qui s'est fiancée. Et ils avaient fait un bal à Henri. Nous, on a entendu la musique, on y a été. Et là, j'ai connu ma...
Elle est décédée maintenant.
Oui. 93.
Et vous avez fait quoi comme activité après que le travail vous avez...
Mais ben, après, j'ai fini chez Elf.
À Faisan ?
Oui, à Faisan.
Tout à fait autre chose.
Ah, autre chose, oui, d'accord.
Et vous avez eu des problèmes pour, enfin, avec la reconnaissance de vos actions, non? Pour vous,
ah ben, j'ai eu la croix du combattant, j'ai eu le brevet d'honneur que j'ai là, tout, non, non.
On ne vous a pas fait de difficultés, on ne vous a pas fait de reproches non plus.
Non,
certains,
plus jamais, non,
certains,
moi, question de ça, oui.
Après la guerre, ont eu des difficultés,
non,
on
non,
vous
non,
accusait
non,
d'avoir...
Non, jamais des difficultés.
C'est bien.
Je veux bien recommencer à parler avec la résistance quand je suis revenu sur vous voyez, en, ouais, 74-75.
Cependant, votre période de travail à Fezin, vous n'habitiez pas à Vaux-en-Velin?
J'ai habité à Vaux-en-Velin en 74. Avant, j'habitais à Vez.
Et dans les disparus, il y en a avec qui vous étiez bien copain, dans ceux qui sont morts au maquis
ou... Ben, j'étais copain avec tous, ceux qui sont morts.
Vous connaissiez tout le monde.
Vous savez, on les a tous réceptionnés, hein, au début. Hein. Puis on les était tous comme des frères. Là, on peut dire qu'on a la vraie amitié.
Oui, c'est la situation qui soulève les
voilà,
gens.
Voilà, oui, d'accord. Ouais. Vous savez, quand je descends à Lyon, si j'avais quelque chose déchiré, c'est un collègue qui me prêtait son pantalon pour être potable pour descendre sur Lyon.
Les Allemands avaient essayé.
Marcel Schadbeck.
À Ronchal, à Beaujeu, à Champostalière, au Bois d'Oie, de pénétrer dans la vallée de la Zergue, chaque fois nous les avons battus. Ils n'avaient plus les moyens. Ou alors il fallait dégarnir d'autres secteurs. Or, je rappelle que nous étions en juin 1944 et il y avait l'offensive en Normandie, il y avait une offensive généralisée. Quoique un certain général, Koenig, ait lancé le télégramme, freiné guérillant. Mais l'élan patriotique était tel que ce mot d'ordre n'a pas été appliqué. Partout, la guérilla se déclenchait et les Allemands étaient aux abords. Il s'est donc trouvé une situation où les Allemands n'étaient plus maîtres nulle part. Nous avons fait une démonstration pour le 14 juillet dans toutes les communes de la vallée d'Azergues, de la vallée du Souanan et certaines communes du Beaujolais. Nous avons, pour le 14 juillet, fait une cérémonie au monument aux morts avec prise de parole. Les informations qu'ont eues Vichy ou les Allemands, c'est difficile de faire la différence, l'ont montré que nous étions maîtres dans cette région. Ils n'avaient plus les moyens d'y parvenir. Alors ils ont utilisé la méthode terroriste. Ils sont venus par l'Arbrel, Nuel, et jusqu'aux approches de la vallée d'Azergues, mais lorsqu'ils sont arrivés vers la région boisée, ils ont craint le contact avec nous, alors ils ont déchargé leurs victimes, ils les ont fait rentrer à l'oreille du bourg et les ont mitraillés. Lorsque nous avons appris cela, bien sûr, il était trop tard et ils s'étaient sauvés.
Voilà donc, en quelque sorte, le résumé de mon activité en ce qui me concerne.
Roger Chavanet.
Bien sûr, activité, bien sûr, qui est faite grosso modo, hein, parce que nous avons eu au cours de ces périodes des aventures innombrables, qu'il serait d'abord oiseux de répéter, et qui n'ont rien à voir avec, et qui, je veux dire, qui ne serait pas d'un intérêt particulier, parce que quand on en a fait une de ces actions, on en a fait 10. Hein, j'ai eu des barrages de police dans lesquels je me suis trouvé, etc., obligé de me servir des armes, tout ça, bon, ben, ça c'était le lot courant. Mais ce qu'il faut retenir, à mon avis, moi, ce que je retiens tout au moins, ce qui me concerne, hein, c'est qu'il y avait quand même, à ce moment-là en France, en 1943, alors que l'issue des combats était encore très incertaine, il y avait bien eu Stalingrad, bien sûr, mais c'était encore prématuré de dire que l'Allemagne était battue. Il y avait quand même, donc, en cette année terrible de 1943, qui a quand même été le tournant de la guerre, des hommes et des femmes qui voulaient vraiment se battre contre l'envahisseur, qui faisaient le sacrifice de leur vie à l'avance contre l'envahisseur, parce que c'était cela la réalité. C'était faire le sacrifice de sa vie. Il ne s'agissait pas de penser, comme on dit maintenant, l'accident, ça arrive aux autres, Il ne s'agissait pas de dire l'arrestation, la mort, ça arrive aux autres. Hein. On avait pour soi, bien sûr, des dynamismes différents. Il y avait des gars, bien sûr, qui étaient plus dynamiques les uns que les autres. Il y avait des gars qui, dans des situations particulières, avaient des réflexes plus rapides, ce qui les a sauvés. D'autres qui en avaient des moins rapides, ce qui les a perdus. Mais la réalité, c'était que on était tous promis, à plus ou moins brève échéance, tout au moins les premiers, à une fin quelconque, arrestation ou exécution. Le fait de partir au maquis, ça m'a probablement, en ce qui me concerne, je dis ça m'a probablement peut-être sauvé la vie. Parce qu'après l'arrestation d'Émile Bertrand, quoique Émile Bertrand et ses camarades, parce qu'ils n'ont pas été tout seuls arrêtés, il y a eu d'autres, mais c'était déjà des motifs déjà moins directs que celui d'Émile Bertrand, ils me recherchaient. Bon, Émile Bertrand n'avait qu'un mot à dire, et j'étais perdu, il n'avait qu'à dire, j'ai rendez-vous avec lui après-demain. Or, il était torturé toute la nuit par des hommes de la brigade maçon, c'était pas la Gestapo, c'était la brigade maçon, des Français, des bons Français, qui l'ont torturé toute la nuit. Et il n'a rien dit, il n'a absolument pas parlé. S'il avait dit la moindre parole, j'étais arrêté, c'était terminé. Donc, des hommes comme ça, hein, et il y en avait d'autres, il y en avait des quantités. Des hommes comme ça, on peut tirer le chapeau. Et on peut dire qu'il y en avait d'autres. Bon, il y en avait parce qu'ils étaient éduqués, certains avaient été éduqués politiquement, beaucoup venaient du Parti communiste, où nous avions quand même reçu une éducation politique qui nous faisait pressentir, on pouvait dire, deviner ce qui allait se dérouler, les événements tels qu'ils se sont déroulés, qui nous ont évité de cette éducation politique de tomber dans les pièges même, comment dirais-je, qui apparaissaient bénins, et qui après pouvait se révéler dangereux, très grave.
Et puis le développement des choses fait que nous avons reçu des nouveaux renforts, nous avons reçu un parachutage par miracle, que j'explique dans le livre, qui est tombé, déporté par le vent, il est tombé à côté de notre camp, ça nous a renforcé en armement, puisque on avait de nouveaux effectifs, on pouvait les équiper en armement, ça a renforcé nos troupes, et à partir de ce moment-là, on a commencé à combattre les Allemands chaque fois qu'ils voulaient passer dans la Zerg. Le résultat, après une multitude de combats, dès la fin juin, la Zerg se trouvait entièrement libérée. Et pour le 14 juillet 44, vous avez la photo là, nous avons défilé dans les rues de la Mure et dans tous les villages de la vallée d'Azergues, nous avons fait une cérémonie au monument aux morts. Ça aussi, les historiens ne l'ont pas vu. Ça aussi, les historiens ne le connaissent pas. Même 50 ans après. Je peux dire que c'est notre fierté que la première armée, quand elle a atteint Lausanne, elle est montée jusqu'en Saône-et-Loire sans avoir attiré un seul coup de feu. C'est notre fierté, et notre fierté aussi, c'est au moment de la bataille pour Lyon que la vallée d'Azergues est fournie 5 bataillons. J'ai ici l'ordre de bataille, avec les noms des bataillons. 5 bataillons, c'était pas rien, dans la lutte pour la libération de Lyon. Le malheur, c'est que je n'ai pas pu y participer, un accident stupide, une blessure idiote, et j'étais hors jeu. Mais ma fierté, c'est d'avoir participé, pour ma part, à la libération de mon pays, comme j'ai pu le faire, avec mes compagnons. Nous étions des gens simples, nous nous sommes battus, simplement parce qu'il fallait libérer la France, et puis nous sommes retournés simplement à nos occupations. Malheureusement, les politiciens ont pris la place, ça n'a peut-être pas été le meilleur pour la France.
Eh bien, je ne pense pas, en ce qui me concerne, que si je n'avais pas eu véritablement une éducation politique bien ancrée à ce moment-là, j'aurais pu vraiment former, comme je l'ai fait, puisque les gars sont venus manger après, ce maquis de laser, et continuer, avec le concours de mes camarades, à le diriger comme nous l'avons dirigé. Parce qu'il faut bien le reconnaître, parmi les dirigeants de ce maquis, la plupart étaient membres du Parti communiste. Il y en avait qui n'étaient pas, mais la plupart étaient membres du Parti communiste. Et agissaient donc en conséquence. Mais nous n'étions pas, malgré tout, des automates, ni des gens qui avions des œillères. Nous estimions, malgré tout, que nous devions agir aussi en tenant compte des considérations du moment et des situations du moment dans l'endroit où nous étions, et non pas nous borner à des consignes strictes et qui très souvent se seraient révélées néfastes aussi, parce que j'ai reçu des ordres en ce qui me concerne que je n'ai pas appliqué et que je m'en suis bien et que nous en avons tiré un gros profit de ne pas les avoir appliqués. Mais en dehors de cela, il faut reconnaître que sans une éducation politique véritablement acquise, eh bien, il aurait été tout au moins extrêmement difficile de pouvoir, dans cette période terrible, tenir le coup comme nous l'avons fait. Les gens, bien sûr, les gens sont revenus à de meilleurs sentiments dans le sens, dans le moment où ils ont été personnellement touchés. Je parlais tout à l'heure du STO. Qu'est-ce qui a fait la pointe dans les maquis? Et surtout, pas tellement même, parce que là encore, il ne faut pas se leurrer, hein, lorsqu'on examine la composition sociale des gars qui se trouvaient avec nous au maquis de la Zergue, entre le mois d'octobre 1943 et la date à laquelle j'étais blessé par le fait, bah, il y avait, c'était la plupart, étaient des ouvriers des villes. Mais ce qui était notre force, c'était l'appui que nous recevions de la population paysanne et de la population locale, commerçant même. Nous avions une grosse force morale dans cette, et sans avoir absolument jamais eu besoin, sauf en de très rares circonstances, de se manifester méchamment, de se manifester violemment. Nous avons toujours agi avec la plus parfaite correction vis-à-vis des gens qui même étaient tièdes vis-à-vis de nous, et ces gens-là sont venus à nous précisément parce qu'ils ont vu que nous étions corrects et que nous n'étions pas ceux que Philippe Henriot dénonçait chaque jour à la radio. Des bandits, des terroristes.
Concernant les combats pour la libération de Lyon, une de nos colonnes qui n'était pas la plus importante pénétra à Lyon en entrant à Tassin-la-Demi-Lune pour atteindre la gare de Vaise. Nous avons été alors exposés aux tirs des miliciens juchés sur les toits, mais devant notre riposte énergique, cet accrochage prit rapidement fin. Je faisais, en ce qui me concerne, partie de cette colonne qui n'a pas été la plus exposée. La libération d'Oulin a été obtenue par les unités des maquis de la Zergue et quelques unités de l'armée secrète de la Loire. Les combats se sont avérés rudes. Nos unités ont eu des pertes, mais celles des Allemands ont été plus importantes. Nos unités ont fait des prisonniers qui ont été enfermés dans le fort d'Irigny. Le 31 août, nos unités ont réoccupé Oulin, qu'elles avaient dû abandonner momentanément, obligeant les colonnes allemandes en retraite à suivre un autre itinéraire pour éviter Lyon.
De cette équipe.
Eh bien, il doit rester Barbier, Carrier.
Oui,
Barbier, Carrier. Reverson, Bobby, on l'appelait Bobby, et moi.
Louis Rossi.
Et un cinquième, je ne sais pas s'il est tout le temps en vie, on l'a perdu de connaissance, on n'a plus rien. Maintenant, on n'est plus que quatre.
Sur une trentaine que vous avez
trentaine. Été vraiment, à l'époque, on était, quand on était au camp des Thieux, avant de partir au camp des Thieux, on était une vingtaine, même porte. Non, on n'était pas une vingtaine. On a eu leur enfance, je vous dis bien, c'est quand il est venu Bobby avec tout ça, ses cinq copains, ça a grandi le cercle.
René Carrier me disait qu'il ne savait pas estimer les pertes, quoi, le nombre de maquisards au fil de tout ce temps que vous aviez, qui était tombé, c'était difficile.
On a un collègue qui est battu, je ne sais pas s'il est venu, il a été pris dans une rafle à Saint-Paul, il a été déporté. Baptiste, je ne me rappelle pas celui-là. D'ailleurs, c'était avec lui qu'on avait fait une mairie début octobre avec Chevalet. Mm-hmm. Non, mais je... Et après, il y en a, quand ils ont eu peur, quand il y a eu l'attaque, ils sont partis. Il y en a un qui était à Chamelet qui nous a dénoncés.
Oui,
il y a eu un traître. Qu'il est venu avec les Allemands, à un endroit où on était, mais la veille on était parti quand on a su qu'il était parti. C'est à Saint-Cyr.
Il court toujours ou il a été.
Ah ben je ne sais pas ce qu'il est devenu.
Non.
Vous savez, nous hein, quand on. Des déserteurs, tout ça, après c'était les groupes, les FTP de ville qui s'en occupaient. Ouais. Et regardez, quand Bertrand, il était guillotiné, c'est le, comment ça s'appelait, c'est Pingli, qui avait dit, ce sera une longue liste. Il a été tué 15 jours après. Blanc, du coup, il n'a pas été guillotiné, il a été déposé à l'aise. Vous comprenez, hein, il commence à avoir peur.
Ben oui,
c'était les FTP de ville, c'était des femmes qui surveillaient les gars pendant un certain temps, elles se changeaient de coiffure et tout, ben ça en a fait partie. Et pour savoir exactement les moments, l'habitude qu'elles avaient de, vous voyez, et tout.
Votre sœur faisait aussi un peu de la résistance, mais pas dans votre réseau, quoi. Hein? Pas dans votre réseau.
Non, là, elle se renseignait des trucs, quoi. Mm-hmm. Chez ma sœur, il y a eu bien des gens qui sont. Chez ma sœur, chez Blanc. Hein. Mm-hmm.
Et après cette période, vous avez fait quoi? Vous vous êtes engagé dans l'armée? Vous êtes retourné à la vie civile?
Je suis retourné dans la vie civile. J'ai été dans la Légion.
Un petit peu quand même.
Un petit peu, temps. Oui, mais là, les gens me sont discutés avec des anciens capitaines.
La Légion étrangère?
Oui.
Pourquoi vous êtes allé?
Ben, parce que j'étais italien.
Ah oui. Ah, vous étiez considéré comme
italien? Oui.
Vous étiez né en France pourtant?
Non. Ah, moi, je suis né en Italie.
Vous êtes né en Italie. Donc, ils vous ont mis d'office dans la Légion?
Ils m'ont envoyé, oui.
Et vous avez été naturalisé quand?
Après.
Longtemps après?
Ah oui, quelques temps après, oui.
Ça a posé des problèmes?
Non, j'ai pas de problème, rien.
La première... C'était au titre de votre activité de résistance?
Voilà, rien. Non, jamais eu de problème.
Et la Légion, vous l'avez quittée quand, en fait?
Mars.
Mars.
45.
Ah oui, vous n'avez pas fait longtemps.
Non, je vous dis bien. Je n'étais pas d'accord avec le commandant.
Ils n'ont pas eu le temps de vous envoyer en Indochine.
Non, mais c'était les pionniers.
Ouais. Et pendant cette courte période, jusqu'en mars 1945, vous êtes monté en Allemagne avec la
Légion. Non.
Vous êtes resté.
Voilà.
Et après, vous avez...
Non, puis moi, j'ai pas voulu signer pour l'Indochine, tout ça.
Oui. Il y en a qui n'ont pas voulu, il y en a qui ont signé et puis qui ont vite démissionné.
Non, ils ont été trompés. Hein. Mon joueur Carrier, il est parti à la Dechille. J'ai un autre camarade, Reverchon, qui est à Villefranche, lui aussi. Il était dans la Légion, pourtant il était français. Oui. Mais il a tout le temps, ça a été tout le temps marqué qu'il était FTP. Ah oui. Et il l'a su après.
Oui, ils étaient surveillés un petit
voilà.
peu.
Voilà, oui, non, non, mais c'est Reverchon lui-même qui me l'a dit. Hein. Il l'a su longtemps après.
Et il a fini lui aussi par démissionner.
Ben, non, il n'a pas démissionné. Il a fait l'Algérie, il a fait même l'Algérie après. Mmh. Il a fait la carrière. Et c'est après, bien longtemps après qu'il l'a su, ça. D'ailleurs, il a eu la Légion d'honneur. Hein.
Mmh. Ce sont mes camarades qui ont libéré la vallée d'Azer. Moi, j'étais blessé.
Marcel Chadbeck.
Mais j'étais plus dans le commandement, puisque j'étais blessé. Ce sont mes camarades qui ont continué mon action, parce que l'action de la résistance, c'est qu'une action collective. C'est l'action de tout un peuple. C'est pas l'action de quelques héros, c'est pas vrai. Si nous n'avions pas eu le soutien de toute la population autour de nous, et je veux rendre hommage par exemple à l'ancien maire de Chamelet, qui a été arrêté parce que les Allemands voulaient lui faire dire où nous étions. Il n'était pas de notre bord politique, mais il a répondu simplement, « Messieurs, je suis français. » Voilà ma conclusion. Eh bien, je dis que je me suis décidé à écrire ce livre très tard parce que j'ai vu des choses qui me semblaient anormales en France, c'est-à-dire la montée d'un soi-disant Front National qui a repris le sigle de l'héroïque Front National de lutte pour l'indépendance de la France des années 40-44 et qui conduirait la France au fascisme si on les suivait. Alors j'ai dit, c'est pas possible, il faut qu'on lutte contre ça, il faut qu'on lutte à nouveau pour la défense des choses fondamentales de la France, la liberté, l'égalité, la fraternité, contre la haine raciale et xénophobe du Front National. Voilà pourquoi je me suis décidé à écrire ce livre.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsute, menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce que prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Tout avait la couleur uniforme du givre, à la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement, bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard, en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23.
les fusils veut rire. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. C'était 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères, pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient à la France en s'abattant.
Vous venez d'entendre un essai radiophonique de Radio Canus en 2,2 MHz, la plus rebelle des radios, destiné à rendre hommage aux combattants des maquis de la vallée d'Azergue, maquis qui ont existé entre mars 1943 et septembre 1944. Vous avez pu entendre au fil de cet essai les voix des maquisards suivants. René Carrier, alias Napoléon, chef du 3e groupe, Roger Chavanet, alias Guérin, fondateur et dirigeant du maquis du camp d'Estieux jusqu'au 22 avril 1944. Louis Rossi, alias Vernet, un des tout premiers venus à ce maquis et qui en sera jusqu'à la fin. Hubert Reverchon, alias Bobby. Marcel Chadbeck, alias commandant Caron, adjoint au chef du maquis, responsable du premier groupe et dirigeant du maquis à partir du 22 avril 1944. Ainsi que les voix des enfants de Claudius Carton, soutien du maquis, Jeanne épouse Roche, jeune fille Carton, et Fernand Carton, son frère. Nous remercions les personnes qui ont bien voulu apporter leur témoignage pour cet essai radiophonique, et nous rendons hommage aux disparus dont la voix nous parvient grâce aux enregistrements du passé.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans
surprise. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.